Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vous savez, il y en avait un qui a dit, je ne sais pas parler. Jérémie ne le dit pas, mais Moïse, par exemple, le disait qu'il ne savait pas parler. Eh bien, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et beaucoup d'entre nous ici peuvent reconnaître que souvent, dans notre vie de croyants, depuis déjà pas mal d'années, eh bien, l'Éternel, souvent justement, a mis ses paroles dans notre bouche. Lorsque nous n'avions peut-être pas l'intelligence suffisante pour dire ce que nous avions à dire de la part de l'Éternel, eh bien, il nous a donné les mots nécessaires pour dire ce que l'Éternel voulait que nous disions. Eh bien, c'est le cas pour Jérémie. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi ce jour-ci, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, sur les nations, sur les royaumes, pour arracher, pour démolir, pour détruire, pour renverser, mais pour bâtir et pour planter. Bien sûr, il y a des choses à redresser, il y a des choses qui ne vont pas aller dans ce peuple, il va le dire dans beaucoup de chapitres, on ne rentrera évidemment pas dans tout ce détail, mais n'oublions pas que c'est avant tout pour bâtir et pour planter, parce que l'Éternel veut que nous soyons positifs et que nous fassions des actions en faveur de l'avancement du règne de Dieu, que nous fassions des actions pour le bien des âmes, pour la gloire de Dieu, et tout cela doit être positif. Parce que si nous agissons de manière négative, en prononçant sans cesse des jugements contre l'un ou contre l'autre, évidemment, ça ne va pas avancer, ça va faire que le travail de l'ennemi. Donc, Jérémie est invité, bien sûr, à démolir ce qui ne convient pas, mais à bâtir et à planter. Verset 11, la parole de l'Éternel vint à moi disant, que vois-tu, Jérémie? Et je dis, je vois un bâton d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est un verset très important de Jérémie, ce verset-là. Il y a comme ça des versets très importants que nous allons citer au cours de ces deux entretiens. Donc, Jean-Philippe continuera après moi. Et donc, il voit quoi? Un bâton d'amandier. Alors, c'est quoi un bâton d'amandier? Vous vous souvenez que Moïse avait aussi vu ce bâton d'amandier en Nombre 17. On peut lire ce verset, puisqu'on parle également en parallèle, si on peut dire, de Moïse. Donc, Nombre 17. Et au verset 7, Moïse posa les verges devant l'Éternel. Chaque fils d'Israël avait apporté une verge, donc. Et cela dans la tente du témoignage. Et il arriva le lendemain que Moïse entra dans la tente du témoignage, et voici la verge d'Aaron, qui était le frère de Moïse, pour la maison de Lévi, donc, puisque c'était les tribus d'Israël. Cette verge d'Aaron avait bourgeonné, et avait poussé des bourgeons, et avait produit des fleurs, et mûri des amandes. Et là, ce bâton d'amandier, ou cette verge d'amandier, cela signifie pour nous que l'Éternel veille sur sa parole, comme c'est dit tout de suite après. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Et pourquoi ce bâton d'amandier? Parce que l'amandier est dans la parole l'arbre qui veille. C'est l'arbre qui est toujours en attente de bourgeonner. Il est toujours prêt pour se développer. C'est le premier arbre, paraît-il, qui bourgeonne au printemps, parce qu'il a veillé tout l'hiver, les autres arbres aussi bien sûr, mais lui tout particulièrement, il a préparé ses bourgeons pour pouvoir tout de suite les développer et produire du fruit. Alors que dit l'Éternel, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc l'Éternel veille sur sa parole, et Jérémie le comprend là, cette parole qu'il va lui adresser au cours de ses 50 années de service de Jérémie, et tout ce qu'il aura dit, l'Éternel, sera exécuté parce que Dieu veille sur sa parole. Et c'est important pour nous aujourd'hui, parce que Dieu veille sur sa parole, d'une part pour nous la conserver, c'est un premier point. Nous l'avons depuis des générations et des générations, et grâce soit rendue à Dieu de ce que nous l'ayons encore aujourd'hui, parce qu'elle a bien failli disparaître à certaines périodes de l'histoire. Eh bien voilà un verset qui nous confirme que Dieu veille sur sa parole. Même dans les plus sombres moments de l'histoire, cette parole a été conservée et aujourd'hui elle est multipliée dans des millions d'exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il faut que le monde entier connaisse la vérité. Dieu veille sur sa parole. Déjà du temps de Jérémie, il veillait sur cette parole. Et ce qu'il allait dire à Jérémie, Donc, comme on vient de le lire, tu iras, je te le dirai, je serai avec toi. Tous ces messages que tu auras à transmettre, eh bien, je veille, Jérémie, sur le service que tu vas accomplir, que je t'ai donné, et je veille dessus pour que ce service soit accompli. Et cela est vrai pour chacun de nous aujourd'hui. L'Éternel veille sur le dépôt qu'il nous a donné à chacun, sur le service qu'il nous a donné à chacun pour l'accomplir. L'Éternel y veille, l'Éternel a à cœur, si l'on peut dire, que ce qui est dans son plan se réalise pour le bien de chacun de nous, de notre frère, de notre sœur, de l'assemblée dans laquelle nous sommes. Dieu veille à tout cela. Donc lorsqu'un serviteur parle de la part de l'Éternel, eh bien l'Éternel est là pour veiller au fait que ce qui est proposé par l'Éternel soit réalisé. Donc je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors je vois là dans ces versets quatre phases importantes. Donc les jeunes peuvent retenir cela. Quatre phases importantes. Premièrement, l'appel. L'Éternel donc a appelé Jérémie, jeune homme. Jeune homme, je dis bien. Hein. Il l'a appelé, c'est la première chose. Deuxième phase, il lui donne une mission. Il lui confère une mission. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Du temps de Jérémie, c'est très vieux tout ça. Hein. Ça date, je ne sais pas combien avant Jésus-Christ, je ne vais pas dire une bêtise, mais pas mal de siècles. Eh bien, c'est la même chose encore aujourd'hui. Donc, premièrement, l'appel. Deuxièmement, la mission confiée. Lorsque Dieu nous appelle et nous demande d'accomplir un service, ce n'est pas forcément un grand service pour aller parler à tout un peuple comme Jérémie, mais ça peut être un petit service. Quand je dis petit, il n'est pas petit aux yeux de Dieu, mais un service peut-être un peu caché à certains égards, mais un service aussi plus conséquent. Par exemple, aller en Afrique pour annoncer l'évangile à des enfants. Par exemple, aller en Albanie, en Roumanie ou ailleurs pour annoncer l'évangile aussi à des enfants. Eh bien, tout cela, donc, c'est un appel que nous avons à entendre, et prenons garde de ne pas rejeter l'appel que l'Éternel veut nous donner. Lorsque nous sommes jeunes, chers jeunes, faisons bien attention à cela, l'Éternel nous appelle. Et il nous confie donc une mission, deuxième phase. Puis troisième phase, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne les ressources, nous l'avons dit. Je suis avec toi, et puis verset 9, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche ». J'ai mis mes paroles, c'est pas les tiennes, c'est les miennes, celles de l'Éternel. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc l'Éternel donne les ressources. C'est le quatrième point ou la quatrième phase, appelons-le comme on veut. Et puis il y a un moment où lorsqu'on a écouté l'Éternel, qu'on a vu qu'il veut nous utiliser, qu'on est à sa disposition, qu'on est dans la disposition d'esprit nécessaire, dans l'humilité aussi nécessaire, parce que tout service nécessite une dépendance, mais aussi une grande humilité, une très grande humilité, parce que nous sommes sous les yeux de notre puissant Dieu Sauveur, et du Seigneur Jésus, bien sûr, et il nous faut une grande humilité. Et puis arrive un moment où Dieu nous dit, c'est le moment de partir, je te donne l'ordre d'y aller. Et c'est le verset 17 de ce chapitre 1 de Jérémie, « Et toi, saint terrain, et lève-toi. » Saint-Hérin, on en a parlé hier. Saint-Docérin, c'est Saint-Docérin de la vérité, c'est Éphésiens 6, nous le savons. Évidemment, il ne faut pas partir avec rien du tout, j'allais dire la fleur au fusil, comme on disait autrefois. Il faut avoir un bagage pour cela. Eh bien, Saint-Hérin de la vérité, c'est-à-dire, sois dépendant de Dieu, écoute sa parole, écoute les conseils des uns ou des autres qui pourraient être utiles dans ce service que tu auras à accomplir. Et puis maintenant, lève-toi. Il y a un moment où l'Éternel nous dit, lève-toi. Ah, il ne faut pas attendre. Si on attend 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, toute la vie, ben c'est trop tard. Il faut se lever quand l'Éternel le demande. Toi, lève-toi. Il y a un cantique qui dit cela, d'ailleurs, dans les reflets. Quelques-uns le connaissent. Toi, lève-toi. Donc, ça, c'est la quatrième phrase. Je reviens un petit peu maintenant en arrière sur le verset 12 où on a parlé du bâton d'amandier. Jérémie, il ne dit pas qu'il en a besoin. Comme Gédéon avait besoin de la toison qui soit humidifiée pour servir, lui, il dit pas qu'il a besoin de ça. On voit Jérémie totalement dépendant. C'est très, très beau. On ne le voit pas poser des questions au-delà de toute mesure. Non, mais c'est l'Éternel lui-même qui va lui donner deux indications. Et ces deux indications sont importantes. Celle du bâton d'amandier dont j'ai parlé un petit peu avant, là. Et puis le deuxième, c'est le verset 13. « Et la parole de l'Éternel vint à moi. » une seconde fois. Donc l'Éternel lui parle là une seconde fois pour lui donner donc ce deuxième élément, si on peut dire. Que vois-tu? Et je dis, verset 13 toujours, je vois un pot bouillant ou une chaudière bouillante sur une autre version, dont le devant est du côté du nord. Et l'Éternel me dit, du nord, le mal fondra sur tous les habitants du pays, car voici, j'appelle toutes les familles du royaume du nord, dit l'Éternel. Et elles viendront et mettront chacune son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, et contre toutes ses murailles alentour, et contre toutes les villes de Juda, etc., je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur iniquité par laquelle ils m'ont abandonné, etc., etc., etc. Donc, deuxième élément que lui donne l'Éternel, le bâton d'amandier d'une part, je veille sur ma parole, ce que je t'ai donné comme service, tu l'accompliras. Je veillerai à cela, sois bien attentif. Et puis deuxièmement, eh bien voilà, il y a pour moi un jugement qui est là, qu'il va falloir, si on peut dire, dire au peuple, c'est ce pot bouillant, cette marmite bouillante, qui parle donc du jugement, qui annonce l'invasion tragique des Babyloniens. Donc ça a été une phase, comme on le disait déjà tout à l'heure, très très terrible pour ce peuple. Ensuite, nous allons peut-être maintenant dire quelques mots au chapitre 2. Peut-être d'abord juste un mot du verset 19 du chapitre 1er. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. C'est un verset que l'on trouve plusieurs fois dans Jérémie. L'Éternel est constamment là pour dire à Jérémie, eh bien, ils vont combattre contre toi, tu vas te trouver seul contre tous. Ça va être terrible pour Jérémie. Ça ne va pas arriver pour chacun de nous lorsque nous servons l'Éternel de manière générale. Mais là, pour Jérémie, c'était vraiment une position très, très particulière. Il était quasiment seul contre tous. Eh bien, ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas. Donc, on voit que l'Éternel lui annonce d'avance cela. Ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Donc, la promesse que Dieu sera là constamment pour le délivrer et pour l'aider. Et puis, au chapitre 2, donc, nous avons le premier message. On ne va pas les citer tous, il y en a 14 messages. Je vais juste dire quelques mots sur ces deux premiers messages. Donc, au chapitre 2. On constate d'abord que l'Éternel recueille des fruits, ou plutôt a recueilli des fruits quand même chez ce peuple, mais que malheureusement il est maintenant dans un état lamentable. Alors la parole de l'Éternel vint à moi disant, va, écris aux oreilles de Jérusalem, disant, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, et quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits, les premiers fruits. Voilà, au début, il y a eu une période pour Israël qui suivait l'Éternel quand même un temps. Ça n'a pas été long, hein, mais l'Éternel le constate. C'est beau cela. L'Éternel constate toujours les choses positives, les choses qui sont faites pour lui, les choses qui sont des fruits qu'on peut apporter à l'Éternel, et pour nous c'est le culte, par exemple, dimanche matin, l'Éternel constate cela, et c'est très beau, eh bien, que fait l'Éternel? Il ne commence pas à juger tout de suite, il dit, je constate qu'Israël avait quand même apporté des fruits, mais, après il y a eu la décadence. Donc ça c'est le premier point, et cela nous rappelle Éphèse, le premier amour, on peut le lire dans Apocalypse. C'est pareil pour nous aujourd'hui, pas seulement du temps de Jérémie. Chapitre 2 de l'Apocalypse. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres, etc. Verset 4. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Pour l'église d'Éphèse, elle avait abandonné son premier amour. C'était quand même terrible. Une église dont nous avons des écrits extraordinaires, avec cet épître que l'apôtre peut écrire aux Éphésiens, justement. Donc c'était beau, cet épître qui nous montre qu'Éphèse vivait déjà dans les lieux célestes. Eh bien, ils avaient abandonné ce premier amour. Combien c'est terrible cela. Faisons bien attention à cela dans chacune de nos vies, dans nos assemblées, de ne pas abandonner ce premier amour. Hélas, Le peuple d'Israël, c'était la même chose. Donc, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles,